Bonjour à tous et bienvenue sur Baba Versus, votre nouvelle émission RMC Sport Combat. Baba Versus, ça va être un invité à chaque fois du monde du combat. On va retracer des parcours, on va parler carrière, on va parler enfance, on va parler mindset. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un combattant professionnel de MMA qui est à 7 victoires pour 0 défaite en carrière, une sensation européenne, une future star mondiale de la discipline. C'est le Belgian Bomber, Patrick Abirova. Salut Patrick.
Salut Baba, ça va?
Ça va et toi?
Ça va bien.
Merci de me faire l'honneur d'être ici pour ce premier épisode de Baba Versus. Et puis donc, comme je te l'ai dit, nous, on va essayer de retracer ton parcours de son inception jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et puis ensuite, tes perspectives d'avenir.
D'accord.
Ça commence toujours de la même manière, Baba Versus. Moi, je voudrais savoir, c'est quoi ta première rencontre avec les arts martiaux?
Alors, ma première rencontre, on va dire que quand tu as grandi, quand tu étais petit, on va dire les garçons, c'était souvent le foot. On commence tous par le ballon rond, du coup, j'ai pas commencé du tout dans les arts martiaux. Après, j'ai grandi quand même en regardant Chuck Norris le dimanche. Donc du coup, Chuck Norris, Bruce Lee, Jackie Chan, etc. On voyait un peu les trucs comme ça, mais c'était sans plus. On était juste un peu impressionnés. Puis on a tous essayé un peu de bagarrer, d'essayer de refaire les techniques de Chuck Norris le soir, etc. Avec ses frères et tout, donc avec mes petits frères. Mais j'ai pas vraiment grandi avec l'esprit martial à la maison. Et j'ai plus commencé par hasard. Il y avait un ami à moi qui avait l'occasion de pouvoir être parrainé quelqu'un et avoir un mois gratuit. Donc en mode, ils ramènent quelqu'un à un cours d'essai et ils ont un mois gratuit. Et du coup, il m'a demandé pour avoir le mois gratuit. Je lui ai dit, vas-y, il n'y a pas de problème, j'ai essayé. Et en fait, j'ai bien aimé d'apprendre des techniques. Dans un premier temps, c'était pour être plus fort dehors.
Ouais.
Donc je voulais vraiment savoir si je n'aime pas de dehors, bien gérer ça. Et puis, de fil en aiguille, tu vois, une fois, deux fois semaine, pas sérieusement, j'ai commencé, j'avais 16 ans. C'était vraiment pas sérieux, je m'entraînais au quartier avec mes potes et puis après vraiment de fil en aiguille, bah il y a un pote à toi qui combat, deuxième pote qui combat, du coup toi aussi tu combats, t'as pas envie d'être le seul qui combat pas, puis tu kiffes bien le combat, puis en plus tout le monde a gagné, donc du coup tu gagnes aussi, donc ça continue. Et puis c'est vraiment, je pense à 17 ans que je me suis dit vas-y en vrai je vais vraiment faire ça sérieusement. Et là je suis monté sur la capitale, j'ai rencontré Tarek Sendo, mon coach actuel. Et puis après, de là, je continue tout droit.
C'est parti, ouais.
Ouais, tout droit.
Bon, on va y revenir. Mais donc du coup, ton premier sport, le premier sport que tu as pratiqué en tant qu'enfant, c'était pas les arts martiaux, c'était le foot.
Le foot, j'ai commencé à 7 ans, j'ai fait jusqu'à l'âge de 13-14 ans.
Ok, d'accord. Et tu voyais quelque chose comme nous tous, tu te voyais en tant que footballeur professionnel?
J'étais monté jusqu'en division 2.
Ah, quand même.
Et j'étais bon au foot, en jeune, donc très jeune encore, mais on était déjà très très bon. J'y croyais comme tout sportif, donc j'ai l'âme de compétiteur, mais c'est clair que j'avais pas le comportement qui suivait pour être footballeur professionnel à cette époque-là.
Ouais.
Je pense que j'avais pas la maturité que j'ai eue avec le MMA lorsque je me suis dit à 17 ans, vas-y, je vais le faire et d'arrêter de faire des conneries à côté. À ce moment-là, j'avais pas encore la maturité.
Donc, tu es un combattant belge, évidemment, ouais. Même si on est les voisins, on va pas faire comme si on connaissait tous la Belgique par cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'était de grandir là où tu as grandi? C'était où?
En fait, je pense que pour moi, tous les jeunes issus un peu de la banlieue, des quartiers, etc., issus de parents venus de l'immigration, on a eu un peu tous la même enfance.
C'est vrai.
Ça veut dire qu'on a grandi dans le partage,
On
a grandi dans le mélange. Ça veut dire que moi, j'ai grandi avec un blanc, un noir, un arabe, un jaune, tout ce que tu veux. On était tous ensemble et il n'y avait pas de. En fait, on est né. On est la première génération après l'immigration, donc on est né, on était tous mélangés.
Ouais.
Du coup, en vrai, nous, on a vraiment grandi comme ça. On mange un sandwich à 10, on partage une canette à 3. Pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de rêves, beaucoup de moyens et aussi beaucoup de débrouillardise.
Ouais.
Beaucoup, beaucoup. Vu qu'il y a moins de moyens, on faisait beaucoup avec peu. Et c'était ça.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu toute cette crise qu'on a eue ces dernières années où il y a eu de la solidarité qui s'est un petit peu créée. Moi, je dis toujours que c'est quelque chose dont. Moi, c'est un environnement dans lequel j'ai grandi.
Ouais.
C'est pas quelque chose que j'ai dû apprendre dans les années 2020.
Non, clairement. J'ai pas dû apprendre à faire avec les autres.
Ouais.
On va dire que les appartements étaient tellement contigus que tu passais ta journée dehors
pour
pas rester à la maison, vu que c'est petit. Et du coup, tu apprends à respecter celui à côté de toi, tu apprends à te faire respecter, tu apprends à savoir comment dialoguer. Et puis après, il y avait aussi ce contraste où moi, j'étais dans une école assez élitiste. Du coup, j'avais les deux milieux. J'étais dans une école où tu avais des fils de docteurs, des fils d'avocats, des gens très aisés. Et puis après, tu avais mes potes au quartier. Et donc, du coup, j'ai appris les deux milieux et les deux vies un peu.
Comment on navigue comme ça? Est-ce qu'on n'est pas quelque part... Moi, je dis souvent aussi que quelque part, on est un petit peu schizo. Parce que tu dois apporter un certain comportement selon l'environnement où tu vas te trouver.
Je sais pas, quand j'étais petit, j'avais du mal justement à rentrer dans le moule d'un certain cadre. Après, pas schizo, mais on va dire que tu deviens un caméléon, quoi. Tu apprends à t'adapter, tu apprends à savoir comment te comporter. Bah voilà, moi j'étais petit, je faisais des compètes d'échecs, et puis après le lendemain j'étais avec mes potos, il pouvait y avoir une bagarre, j'étais là. Le lendemain j'allais jouer aux échecs, ça n'avait rien à voir. C'était deux milieux totalement différents, mais au final c'est ce qui me représente.
Ouais, et puis c'est de l'adaptabilité que tu as appris très jeune
Ouais.
et qui te sert probablement aujourd'hui pour ta carrière professionnelle.
Dans ma vie de tous les jours, dans tout ce que je fais actuellement, c'est ce qui me sert. Et puis aussi cette façon de pouvoir aussi retransmettre des choses, je pense aux gens, transmettre des émotions et savoir les transmettre à telle personne et à telle personne, parce qu'ils ne vont pas le prendre de la même manière, le message.
Ouais, évidemment, c'est clair. On va revenir maintenant sur tes débuts martiaux, entre guillemets. C'est quoi le premier sport de combat que tu pratiques?
Ah, j'ai commencé directement avec le MMA.
Tout de
J'ai
suite, hein.
commencé dans un club de MMA. Par contre, la première compétition officielle que j'ai faite, c'était le championnat de Belgique 2017, je pense. Et j'ai été vice-champion de Belgique. J'avais 16 ans, ou bien c'était 2016 et j'avais 15 ans, l'un ou l'autre. Et j'étais vice-champion de Belgique, mais j'ai fait en senior. Du coup, c'était l'ADCC Belgium.
Ok. Ouais, donc grosse compétition tout de suite en
Ouais,
fait.
c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps et c'était marrant. Franchement, c'est une bonne expérience.
Ouais. Et comment on ressent les choses quand on commence un sport de combat comme ça à cet âge-là, à l'ère où en fait le MMA est beaucoup plus développé, l'UFC est un peu partout et les autres divisions aussi. Est-ce que toi, quand tu pousses la porte, pardon, de cette salle de MMA, est-ce que rapidement dans ta tête c'est compétition carrière ou c'est moi je veux
Non,
juste kiffer en
non, non,
fait?
non. Moi, je veux juste kiffer, puis j'ai pas senti ça. Vraiment, à l'époque, on va dire, le MMA n'était pas aussi développé que maintenant. Moi, quand j'ai commencé, c'était en 2016. Du coup, c'était pas encore avec l'essor. L'essor du MMA est venu avec la légalisation en France. La Belgique a pu suivre parce que nous, les combattants belges, on a pu surfer sur cette vague aussi, vu qu'on parle français. Et du coup, vous avez eu l'UFC qui est arrivé directement. Donc là, tous les médias se sont mis dessus. Mais c'est clair qu'avant ça, ça resterait quand même assez restreint et ça restait quelque chose de très, on va dire, précaire et primaire, quoi.
Ouais, c'est un peu marginal.
Voilà.
Mais du coup, parce que moi, ça m'intéresse aussi de savoir comment ça fonctionne le MMA belge. Parce que pareil, on a un prisme très français. Et puis, tu sais, je suis parisien. Et nous, les Parisiens, on se regarde. Hein. Je vais
Non,
pas
pas de
mentir.
problème.
Mais est-ce que, du coup, tu me dis que la légalisation en France, ça vous a fait profiter aussi
Bien
d'une
sûr,
exposition.
bien sûr.
Mais avant ça, il y avait quand même de l'organisation, il y avait
Bah oui,
quelque
parce
chose.
que les Français venaient combattre en Belgique.
Ouais.
Parce que nous, c'était légalisé bien avant vous. Mais le problème, c'est que nous, on n'avait pas de belles infrastructures. On n'avait pas de gens qui affluaient de l'argent là-dedans pour avoir des grosses salles, des grosses organisations qui peuvent venir parce qu'elles voient qu'il y a un public derrière qui va pouvoir venir et générer des revenus. Un promoteur ne va pas se lancer dans organiser une salle de 8 000 personnes si c'est qu'il ne va pas la remplir.
Ouais, bah c'est clair.
Ça, il perd de l'argent. Et c'est des centaines de milliers d'euros. Donc c'est vraiment un business. Le sport de niveau, ça reste un business. Et ce businessment parlant, c'était compliqué en Belgique. On va dire en termes de talent et en termes de volonté, on avait ce qu'il fallait en termes de talent belge, en termes de combattants, en termes même de coach qui voulaient organiser. Il y avait même des organisateurs qui poussaient des organisations, mais ça ne dépassait pas un certain stade qu'il y a eu quand la France a juste légalisé, où il y a eu tout qui a
Ça a
enchaîné.
explosé, ouais,
Tout
derrière.
s'est enchaîné. Donc du coup, nous, on a plutôt surfé sur cette vague. Et on va dire plutôt les combattants belges francophones. On avait déjà des combattants aussi qui sont… du coup, ils parlent néerlandais, donc
Oui.
flamands. Et donc eux, il y a cette séparation quand même due à la langue.
Ouais, parce que de toute façon, comme pour nous, hein, on est une grande nation du pied-point, historiquement, mais c'est la même chose pour les Pays-Bas, c'est la même chose pour la Belgique. Moi, j'ai fait une grosse partie de ma carrière en Belgique, en
Ouais, Belgique,
pied-point,
c'est très chaud en
en Muay Thai et en
pied-point.
kickboxing. Oui, c'était
Ah non,
les
pied-point,
3 fois 3 minutes, tête
ouais.
contre tête, c'était
Non,
quelque chose.
on est réputé
Mais
pour le
c'est clair
pied-point.
que, du coup, est-ce que toi, quand tu rentres dans ces sports de combat et que tu commences à t'entraîner, que tu commences à faire tes compétitions, est-ce que tu arrives à trouver un modèle belge pour te dire, je vais tendre vers ce gars-là? Le premier nom qui me venait en tête, ce serait Tarek Safieddine, par
Ouais, c'est
exemple.
ça, c'est ça. Moi, c'était vraiment. En plus, c'était le partenaire d'entraînement de mon coach actuel, Tarek Sendo. On va dire, c'est le premier Belge qui a été champion du monde Striker Force. Pour dire, c'est l'organisation juste avant l'UFC. À l'époque, le champion, c'était Daniel Cormier en
C'était
light
quelque chose
heavyweight.
de
Donc, c'était
Strike Force.
vraiment la grosse organisation mondiale. On va dire concurrent peut-être du Pride. Mais voilà, c'était vraiment ce qui se faisait de mieux aux États-Unis. Et il a été champion welterweight. Et il est monté jusqu'au top 10 de l'UFC. Donc, du coup, nous, en tant que Belge, c'était quelque chose de voilà d'avoir ce type de personne-là, mais je pense que c'était vraiment le seul. Sinon, en dehors du MMA, tu avais Jean-Claude Van Damme, mais
Ouais.
ça n'a rien à voir.
Ouais, c'est
C'est
clair, ça n'a
pas
rien à voir.
en pur combattant, quoi. On n'avait pas non plus beaucoup d'exemples en MMA, mais c'est clair qu'après, moi, je me suis plus construit en me disant, ben, les Américains l'ont fait, les Russes l'ont fait, pourquoi pas nous? Et surtout, pourquoi pas moi? Du coup, s'il n'y a personne qui l'a fait, autant être le premier, quoi.
C'est pas facile hein, de devoir paver le chemin pour les autres. Parce que même si Tarek, encore une fois, il l'a fait, sa carrière, elle est très américaine, à Tarek Safieddine.
Non, bien sûr, il s'est expatrié, il est parti là-bas. On va dire que nous, on a tout fait de A à Z en Belgique. De A à Z, en plus, on partait de Namur. Namur, à la base, on n'avait pas de salle. C'est-à-dire que nous, il faut savoir s'entraîner dehors. On courait dans la forêt, on faisait des trucs à la Rocky, quoi. Mais c'était très précaire. Enfin, moi, je m'entraînais au quartier, il y a le terrain de foot, et je suis derrière avec un pote à moi qui me tient les palettes, qui a peut-être un an de boxe anglaise en plus que moi. Moi, nous, ça nous arrivait, j'avais 16 ans, je coachais un pote à moi qui fait un combat d'MMA. Donc, on n'a vraiment pas commencé dans la même dynamique que les gens quand je vois ici en France ou à Paris spécialement, ou dans des gros gyms où ils commencent en amateur, ils ont direct un coach, Johnny Frachet, tac, Nicolas Haute, bam, bam, préparation, cutting et tout. Donc, moi, j'ai jamais entendu parler du cutting avant ma fin de carrière amateur. Nous, on n'a jamais entendu parler de ça. Suite, souhait, tout ça, on ne connaissait pas. À la base, on ne savait pas comment fonctionnait le milieu. On venait, on combattait. Moi, je faisais 73 kilos, donc 73. Je combattais à 77. Et
Ouais, pas
c'était
de
comme
cutting,
ça.
pas de... Oui,
Voilà.
ok.
Et je venais et j'avais 18 ans. Et je combattais déjà à 17 ans. J'ai une dérogation par les arbitres pour me faire combattre en amateur adulte. À l'époque, amateur, c'était sans protège tibia, gants amateur. Et des fois, c'était même les gants pro dans certains gars-là, à l'époque. Du coup, j'ai beaucoup de combats, j'en ai 6 qui ne sont pas répertoriés sur Tapology parce que c'était même avant ça.
Ah ouais, d'accord. Donc c'était
Ouais,
encore avant,
ouais. Ouais.
c'était pré-carrière qu'on te connaît, quoi.
Voilà, c'est ça, c'était vraiment avant ça et ça, c'était une autre époque.
Ce qu'on appelle, nous, les combats underground ou les combats, voilà, les
Voilà. Et du coup, c'est vrai que moi,
interclubs.
je suis jeune, mais je pense que vu que j'ai commencé à combattre tôt, j'ai commencé à 16 ans, direct quand j'ai commencé, malgré que je suis jeune, j'ai quand même fait partie de l'avant. Pour moi, il y a un avant et après Covid, en fait, dans le. Le
Pour le MMA belge, tu parles ou au global?
global francophone. Nous, quand il y a eu après le Covid, il y a tout qui s'est. J'ai l'impression que tout était bien structuré. Et avant le Covid, bah moi, tous les combats d'avant, ils sont pas répertoriés. J'ai combattu en Angleterre, le mec faisait 84 kilos, j'en faisais 80. Voilà, c'était comme ça. Le mec, il arrive, il a raté 4 kilos la pesée, tu combats. En amateur, maintenant, je vois des mecs qui sont là, prime, machin, je fais un cutting, je gère ma carrière, je fais une
Médiatisation,
gestion.
ouais.
Le mec il dit j'affronte pas lui, j'affronte pas lui, je suis ranké numéro autant au classement. Nous, il n'y avait pas de classement. Si tu devais être fort, tu devais être champion du monde. Et là, t'es fort.
Tu penses que c'est une bonne chose, ce qui se fait là au niveau amateur, c'est tout ce dont tu parles là justement. Cette structuration,
Moi, je pense
ranking,
que la
etc.
structuration, c'est très bien parce qu'il y a eu beaucoup de combats où il y a quand même des mecs qui prenaient des KO sales. On avait des gants pro, quoi. Donc, du coup, quand le mec il est encore débutant et qu'il prend un gros KO, c'est bien que maintenant, tu peux pas combattre lui si tu as 15 combats et il en a deux. Que les gants soient rembourrés, protège tibia, que ce soit. Mais je pense qu'il y a aussi toute cette médiatisation qui n'est. En fait, ça peut aider certaines personnes, comme d'autres, ça peut les desservir. Il y en a qui vont trop penser à ça et oublier qu'en amateur, le but de l'amateur, c'est de affronter tout le monde. Je prends ma carrière amateur, j'ai 33 combats, j'ai 6 défaites, 27-6. C'est pas parce que j'ai 6 défaites que c'est un record dégueulasse. J'ai 27 victoires, donc du coup, j'ai perdu 6 fois face à des adversaires valeureux, dont on peut dire que mes 4 premières défaites datent de avant 2020, je pense. Donc après ça, ça a été IMAF, IMAF. Donc voilà, c'est un peu ça le truc. Ça a été Alvi, IMAF, c'est tout. Donc en fait, je pense que l'amateur maintenant, ils ont un peu du mal à affronter certaines personnes en se disant qu'est-ce qui va se dire. Mais maintenant, parce qu'il y a des très belles organisations. Moi, j'ai été vraiment aux prémices de l'AEF, et maintenant c'est devenu l'AEC. J'étais aux prémices de cette organisation.
T'es
J'ai
au
fait
début.
l'AEF 2, je pense. C'est là qu'il y a eu l'explosion. Moi, c'est avec moi qu'il y a eu le premier truc RMC Sport, etc. Je me rappelle. Du coup, je comprends ce qui s'est passé après. Et maintenant, quand je vois ce qui se passe maintenant, t'en as, ils pensent que c'est du pro. T'es pas encore pro.
C'est pas du
T'es
pro. Et
amateur,
puis.
donc affronte n'importe qui. Franchement, tu peux combattre toutes les 2 semaines en amateur.
Moi, je pense aussi. Bon, tu me dis ça, tu prêches un convaincu. Parce que pour moi, l'amateur, ça sert beaucoup à ça. Tu vas créer ton style de combattant, tu vas
Ouais.
prendre de
C'est
l'expérience.
clair, c'est
Mais
clair.
moi, j'ai l'impression aussi que maintenant, on essaie un petit peu de construire la carrière, mais pas dans le bon sens, en
En
tant
amateur, je trouve
qu'amateur.
que c'est débile. En amateur, je trouve que ça sert à rien de vouloir construire une carrière parce que, au final, c'est là que tu peux perdre. On va dire. Parce qu'en pro aussi, tu peux perdre. Mais en amateur, c'est là que tu dois perdre, limite, pour apprendre quelque chose. Si tu as quelque chose à apprendre et que ton coach voit que, voilà, tu ne gères pas ton cardio, mais tu fais pas tes entraînements de cardio, et il voit que tu es fainéant, il te faut te mettre un fight dur. Comme ça, là, tu vas prendre ta gifle, tu vas prendre une défaite et tu vas dire, ah, faut que j'aille courir. Tu gères pas tes régimes. Ah, il te faut un fight dur. Comme ça, tu vas comprendre que tu dois être au poids. Et si ce n'est pas ta catégorie, mange mieux. Là, il faut tes erreurs, il faut que tu les prennes en
Bien
amateur.
sûr.
T'as jamais affronté un gros lutteur? Prends. T'as jamais affronté un gros striker? Prends. T'as jamais affronté un gros grappleur? Prends. C'est maintenant. C'est là qu'il faut vraiment faire tes armes. Pour que quand tu arrives en pro, tu dis, ok, j'ai plus ou moins affronté tous les profils. Je connais à peu près comment le MMA ça fonctionne. Je connais à peu près c'est quoi le momentum d'un combat. Quand je suis en train de gagner, quand je suis en train de perdre. Quand j'étais bas dans les scores et que je remonte, je perds les deux premiers rounds, je dois gagner le troisième. Tous ces faits de combat-là, il faut les apprendre parce qu'en pro, il y a le stress qui vient avec.
Ouais, c'est clair. Et puis, ce mindset-là que tu es en train de me raconter, moi, pour moi, c'est très important parce que on est sur la même longueur d'onde. Est-ce que c'est quelque chose dont tu étais parfaitement conscient pendant que tu menais ta carrière amateur,
Non,
justement?
non, franchement, moi, en fait, j'ai juste eu cette mentalité de du au manga. J'en ai rien à faire de qui est en face de moi, quoi. J'ai envie d'être le meilleur, donc du coup, pour moi, être le meilleur, c'est le champion du monde. Si tu es champion du monde, je pense qu'Islam Makhachev l'avait très bien dit à l'UFC. Si tu t'appelles en tant que champion du monde, tu dois être capable d'affronter n'importe qui.
Ouais, et
Et du
donc.
coup, moi, pour moi, mon goal, c'était d'être champion du monde amateur. Donc, je devais être capable d'affronter n'importe qui et de battre n'importe qui.
Et sur cette carrière amateur, donc du coup, que tu lances avec ce mindset-là, ça te fait justement beaucoup de combats. Donc, comme tu l'as dit, des victoires, des défaites, parce que tu es en train de construire ta carrière. Et puis, en plus, en même temps, tu vas switcher de catégorie, parce que j'imagine, comme tu me l'expliquais tout à l'heure, que tu commences à mieux comprendre
Ah, bien sûr.
ces histoires de
Bah,
cutting, de
c'est ça.
compagnie. Ces défaites-là, et surtout celles à très très haut niveau, d'accord, notamment aux IMAF. C'est quoi le premier enseignement que tu vas tirer de cette défaite-là?
Beaucoup de rage. Beaucoup de rage. Beaucoup de haine, beaucoup de déception. Parce que tu sacrifies beaucoup quand tu vas aux IMAF. En tout cas, nous, le peuple belge, on paye de notre poche. Tu payes 1500, 1700 euros. Donc, tu as travaillé en même temps, tu as fait un job pour pouvoir payer ces IMAF. Et au final, il n'y a rien. Tu sors au premier tour, il y a beaucoup de rage. Et après la rage, et après la haine, et après la peine, vient les leçons. Et là, tu te poses des questions de qu'est-ce qui n'a pas été, et puis tu analyses. Et puis, quand tu as analysé, tu reviens.
Tu fais finale donc aux Euros, et puis ensuite tu perds aussi au championnat du monde IMAF. Donc ces défaites-là où tu dis que tu as beaucoup de rage avec tous les sacrifices que tu as pu faire pour
Bien
pouvoir y
sûr.
aller. Moi, je me pose la question, donc je te la pose. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, en fait, je vais tout arrêter?
En fait, ce qui est compliqué avec le MMA, c'est que tu peux remettre tout en question lorsque tu ne vois pas le bout du tunnel. Et du coup, quand tu perds plusieurs fois, tu peux te dire, bah, peut-être que je ne suis pas fait pour ce sport. Et ce n'est pas un sport comme le foot ou le basket où tu peux dire, bah, ok, je le ferai pour le plaisir. Ça n'existe pas.
Non.
Dans le MMA, soit tu es à 100% dedans, soit tu n'y vas pas en compétition. Fais-le pour le plaisir, va à la salle, va à l'entraînement, entraîne-toi, fais-toi plaisir, mais n'y va pas à 50%. Parce que tu risques de sortir avec de grosses blessures. Donc à ce moment-là, non. À ce moment-là, il y a tellement de rage, il y a trop de sacrifices pour pouvoir me dire que je dois faire un marche
Ouais,
arrière.
donc c'est jamais en question, quoi.
Non. Ah, c'était plus au début, quand j'avais eu mes premières défaites, où là je me disais bah, peut-être que je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas aussi fort que je pense. Mais à ce moment-là, c'est des défaites rageantes. Yoann Ary, je me rappelle, c'était un fight très engagé. Puis je dors sans m'en rendre compte, sur une pression nuque. Le quart de finale des mondes, le sparring partner de Shavkat Rakhmonov, le Kazakh, très très gros combat engagé, mais il me soumet pas, il m'amène au sol, je me relève tout le temps, ça strike, très engagé aussi, décision. Donc c'est très rageant. C'est pas un truc où je me suis dit bah je me suis fait dominer de A à Z et bon j'avais pas le niveau. Et ben non, ça m'a poussé à revenir la dernière fois et je me suis dit ok j'acte 2023, c'est ma dernière compétition, championnat du monde, l'or ou la mort.
Donc c'est vraiment le mindset.
Ouais.
C'est si je gagne pas,
Ouais, c'est mort. De toute
c'est
façon, je
pas
peux.
si je fais demi-finale.
Non, non. J'allais pas être satisfait. De toute manière, c'était ma dernière. Mais j'allais pas être satisfait si je partais de ma carrière amateur sans avoir le titre. J'allais vraiment avoir le seum.
Donc en fait, l'enseignement que tu tires de tes défaites, c'est do or die, en fait.
Ah non,
C'est.
faut que je gagne.
Ouais.
Non, non, faut que je gagne. Non, j'ai été au championnat du monde. Je pense que psychologiquement, il n'y en avait pas un dans cette compétition qui allait être plus fort que moi. Surtout que j'ai eu le tirage le plus dur. Enfin, faut se dire qu'au deuxième tour, je bats Omar Tougarev. Il est l'actuel champion lightweight du Cage Warrior, 8-0. Donc pour vous dire, et champion d'Europe à ce moment-là, je
Exactement.
le bats. Je passe Sébastien Palacio, un Suédois, 14-1 à l'époque. Là maintenant, je crois qu'il est 6 ou 7-0. Je vais en demi-finale, un Tadjik, vice-champion du monde de sambo, le sport national de toute l'équipe à Khabib, Islam Makhachev,
Exactement.
etc.
Sport exceptionnel.
Il est 6-0 actuellement en pro. Finale, Joe Vidon, champion de la Coupe du Monde, champion d'Asie, Tadjikistan aussi. Ça, c'est toute ma poule. Et ça, c'est ce que je bats jour après jour, en mettant KO et soumission. Donc non, c'était vraiment. Dans ma tête, psychologiquement, c'était mort. En fait, je ne pouvais pas visualiser de perdre à ce moment-là. Je me rappelle que je m'étais pété la main. J'étais comme en transe. Je voulais gagner. C'était la seule chose que je visualisais.
Et justement, parce que je sais que c'est difficile pour avoir fait ça, mais version IFMA, donc la version Muay Thai en fait des
Ouais, bien sûr.
championnats d'Europe, championnats du monde, championnats d'Europe amateurs, avec pesé,
Ouais, je pense pas que les gens
répété.
puissent réaliser ce que c'est.
Moi, j'ai pas réussi à garder mon focus, Patrick.
Non.
arrivé à la demi,
Ouais.
je voulais juste rentrer chez moi en fait.
Ok.
Je te le dis en toute franchise,
Ok.
surtout j'ai suffisamment de recul
Je
aujourd'hui pour
respecte, je
pouvoir le
respecte.
dire. Comment on fait pendant cette compétition-là pour se dire, c'est pareil, tout ça te vient de ces défaites-là? Ou c'est des choses que tu vas rajouter en plus, notamment l'apport de ton
Non.
coach?
Non, la relation qu'on a avec mon coach aussi, j'ai une école très dure dans le MMA. On va dire que les gens ne réalisent peut-être pas, parce qu'ils ne me connaissent pas personnellement, et qu'ils ne me voient pas à l'entraînement, et puis qu'ils voient ce que je veux montrer de moi sur les réseaux sociaux. Et même si je me livre dans certaines vidéos, au final, ils ne connaissent pas tous les sacrifices par lesquels je suis passé. Mais moi, j'étais un jeune qui faisait 1h30 de train aller-retour pour aller m'entraîner. Je rentrais à minuit, je me levais à 6h pour aller m'entraîner avant l'école secondaire, 1 heure à la salle, puis je vais à l'école, je prends le train, 1h30, je rentre, il est minuit tous les jours. Pas d'argent, pas de perspective d'avenir. J'ai pas fait ça pour rigoler. Ça veut dire que moi, quand j'arrive au monde et que j'ai dû faire une cagnotte pour pouvoir y aller, je ressens de la honte à l'intérieur de moi, dans mon être. Je ressens de la honte parce que je me dis, j'ai même pas assez d'argent, donc je vais faire une cagnotte pour que les gens m'aident, et je me dis que les gens, ils ont pitié de moi. Et j'arrive au championnat du monde, je vois tel mec, il a pas payé, je vois tel mec, son club, il lui a payé. J'ai le seum, en fait. Du coup, moi, quand je les frappe avec l'envie de vraiment les détruire. J'ai pas envie de gagner, j'avais envie d'être craint. J'avais envie que quand les gens ils me voyaient, je savais que les gens disaient, ah, c'est Belgian Bomber, il a mis 4 KO d'affilée aux Europes, pareil, il a mis des KO. Non, il y a une aura. Tu comprends, il n'y a pas d'émotion. Si tu me vois quand je gagne, j'ai pas d'émotion à chaque
Ouais,
fois.
c'est vrai.
Parce que je levais la main et c'était pas fini. Jusqu'à ce que je sois champion du monde. Il y avait zéro émotion qui allait sortir, j'étais comme un assassin. Je venais avec une mission et tant que c'était pas fait, c'est mort.
Et tu sais, c'est bien que tu me dis ça, parce que moi, en toute franchise, comme j'ai un œil extérieur et qu'on se fréquente pas, que je te connais pas, et que je connais le contexte du MMA
Ah,
aujourd'hui
bien
et
sûr.
la carrière amateur, comment elle se construit pour aller chez les pros derrière,
Bien
bon,
sûr.
on se dit, lui, il fait ça parce qu'il a l'objectif d'être pro et d'aller loin derrière. Rien à voir, en fait, à ce moment-là. Toi, tu es dans un tunnel, en fait, parce que tu t'es donné un objectif
Bien sûr.
qui
En
est
fait,
vital.
j'ai un objectif très clair dans ma tête. Je vais écrire l'histoire. Et pour moi, écrire l'histoire, c'est faire quelque chose que personne n'a fait. Être champion du monde senior, IMAF, 77 kilos, personne ne l'a fait. Et moi, j'étais petit quand le pound for pound actuel, c'était Axel Solin.
Ok.
Et il avait été vice-champion du monde.
Ouais.
Et c'était lui le pound for pound. Et dans ma tête, je devais faire champion du monde.
Et ça a été fait, et puis en plus, c'était la meilleure performance de la compétition.
C'est ça. Je
C'est quelque
voulais
chose
écrire
aussi qui était
l'histoire.
important pour toi.
J'ai eu 3 records aux IMAF, la meilleure performance championnat du monde, le record de KO, 4 KO d'affilée, et le record du KO le plus rapide, 9 secondes.
C'est quelque chose qui te rend encore très fier aujourd'hui. Je vois que ton visage, il change.
C'est pas que je suis très fier, c'est juste que je me dis que les sacrifices que j'ai faits, le petit jeune en amateur, ils servaient pas à rien. Sauf que lorsque j'ai fini les IMAF, je me suis dit, là c'est parti, on arrive en pro et il faut reset. Faut repartir de zéro et se dire que le chemin va être long. Mais si j'arrive à l'objectif que je me suis dit pour le professionnel, je pense que je pourrais être le meilleur combattant de la Terre. Parce que si on arrive à faire amateur pro, ce serait une dinguerie, un peu comme Mokaev il est en train d'essayer de faire. Ce serait vraiment.
Ouais, même s'il a eu des petits bâtons dans les roues, mais
Voilà.
je vois le mindset et je vois l'idée du chemin en
C'est
fait.
ça. Et je pense que en termes de performance sportive, même si Mokaev n'a jamais perdu, je choisirais toujours mon parcours au sien. Alors que je l'aime beaucoup. Mais je préfère mettre des KO.
Je
Je trouve
comprends.
ça plus. Plus donc voilà, c'est vraiment mon objectif là d'arriver à faire ça en professionnel. Du coup, j'en ai rien à faire de perdre. J'en ai rien à faire d'être invaincu, j'en ai rien à faire de ce qu'on dit le zéro, j'en ai rien à faire de ce qu'ils disent sur Twitter, la hype des réseaux. Je m'en bats les couilles. Tout ce que je veux, c'est être le meilleur. Donc c'est pour ça que je suis un combattant qui va chercher les défis et que je sais que je suscite le choc à chaque fois chez les gens. Parce que chaque fois ils disent Patrick, il va pas passer ce mec-là, bam. Patrick, ça va être trop court, bam. Il est trop léger, il a pas assez d'expérience, il est que fougueux, c'est qu'un striker, peut-être que c'est les réseaux.
Patrick, après cette carrière amateur qui est plutôt riche, et du coup elle est couronnée de succès, parce que tu termines champion du monde et tu atteins cet objectif-là, tu fais ton passage en professionnel. Moi, en tout cas, ça commence à venir beaucoup dans mes oreilles. Il y a un combattant belge, il est en train de tout casser, il a fait champion du monde vraiment en faisant une perf de fou. Est-ce que tu as conscience qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ton passage en pro à ce moment-là?
Oui et non, parce que j'ai pas encore atteint le grand public. Du coup, je suis encore dans le public MMA. Et du coup, le public MMA, en vrai, tout le monde se connaît. Du coup, c'est pas représentatif du. C'est pas le nombre de followers que tu as dans le public MMA ce qui est représentatif, c'est tes performances. Du coup, je sais qu'on me reconnaît dû à les performances, mais c'est pas non plus. On a beaucoup d'attentes sur moi. C'est plus à partir de ma carrière professionnelle que je sens l'engouement suite à mon deuxième combat professionnel.
Et donc à partir de là, il y a quelque chose qui change au niveau de la perception du public. Tu le sens, tu le ressens
Ouais,
comment
tout a
toi?
explosé.
Ouais.
Ouais, après Baki Doumbé, c'était de l'ordre du chiffre. J'ai pris 5 000 abonnés en un jour.
Bah, c'est vrai que tu avais fait toute une campagne sur
Ouais,
les réseaux sociaux pour
ouais.
pouvoir atterrir sur cette
C'est
carte-là.
ça.
Comment ça s'est passé au niveau du PFL quand ils ont pris contact avec toi? C'est en fait on a des mecs qui n'arrêtent pas de nous emmerder,
Ouais,
donc
en gros, la petite histoire, c'est quoi? C'est que moi, j'envoie un DM à Dan Hardy sur Instagram pour lui dire j'aimerais bien combattre cette carte-là parce que, en fait, c'est la carte où il faut être. Et voilà, je vois le truc et tout, je me dis j'ai envie d'y être. Et je me prends un vu monumental. Du coup, je comprends que voilà, je suis 1-0. En vrai, le PFL, ils vont pas signer un mec à 1-0, ce qui est logique. Et du coup, moi, je mets juste un tweet en mode, oh, j'aurais bien aimé être là. Et là, les gens en mode, ah, c'est une bonne idée, machin, let's go. Franchement, ce serait lourd et tout. Et puis, je retweet un autre truc du style, put me on the card ou quoi. Et là, tout le monde retweet. Mention tout le temps Mugiwara, sur tous les posts du PFL, Mugiwara, ils envoient tous à Dan Hardy des messages. Et du coup, Dan Hardy, à un moment donné, ils reçoivent que des notifications, notifications, notifications. À un moment donné, il a dit, ouais, c'est qui ce Mugiwara en fait que les gens disent? Il est revenu, il a vu mon DM, il a dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Et puis, de fil en aiguille, la magie a opéré, hein. La magie du public.
Ouais, toi, tu t'attendais quand même à un engouement pareil ou juste, bon, écoute, un coup de main, ça va être pas mal et au
Bah,
final, c'était quand même un raz-de-marée, hein,
je
vraiment.
pensais pas que le public allait réagir autant. Et c'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir. Après, je pense que je suis arrivé dans une bonne vague aussi. Je suis passé professionnel, il y a eu le moment où Doumbé est arrivé, il y a eu ce truc avec Baki, il y a eu une vague de sphère sur le MMA, que c'était le buzz
Là, on est au
réel,
summum de la
c'était la hype. Du coup, moi, je suis arrivé à ce moment-là et j'ai glissé quoi.
hype.
Mais sauf que moi, comment j'ai glissé, j'ai bien surfé dessus.
Ouais, c'était
Et
parfait.
ouais, ça s'est bien passé pour moi.
Et du coup, tu combats donc sur une carte où il y a un énorme main event.
Ouais.
À date, peut-être le combat français où il y a eu le plus d'engouement.
Ouais, peut-être, ouais, je pense.
Bon, ça fait un sacré bout de temps que je suis
Ouais, clairement,
dans les
clairement.
sports de
Non, je
combat et
pense que
clairement.
c'est celui qui a le plus d'engouement.
Et comment on le vit quand on est un combattant de cette undercard et on se dit, il y a ces deux têtes d'affiche là, et en plus, c'est deux mecs qui combattent dans une catégorie où je peux combattre. Il y a quelque chose en termes de futur, de rivalité, ou peut-être d'ambition juste personnelle, ou peut-être même une ambition qui est liée à ces gars?
Bah déjà, ils m'ont placé en main card. À la base, j'étais en prélim. Du coup, dû à l'engouement, ils m'ont mis en main card. Donc, t'as un mec qui est 1-0 qui est en main card de la plus grosse carte, je pense, en termes d'entertainment et de visualisation.
Ah
Je
oui,
pense que c'est la plus
d'engouement,
grosse
oui.
carte du MMA français. Et on te place en main card. Donc, du coup, je sais que ça a déjà fait pas plaisir à beaucoup de combattants qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi. Mais le PFL s'est rendu compte que non, en fait, il faut qu'on le mette en main card, il faut que ce soit diffusé. De plus, moi, j'avais pas ce truc de jalousie ou quoi, des main events, etc. Moi, je suis arrivé en mode vraiment comme le petit jeune qui vient foutre la merde. En mode, j'arrive, je débarque et c'est le bordel. Et moi, je suis juste content d'être là. Je suis content d'être là, je suis content de combattre, je suis content de combattre sur cette carte. On me met en main carte. Moi, ça me fait plaisir. J'ai pas besoin de demander plus. J'ai déjà eu plus que ce que je demandais. Donc, je suis satisfait avec ce que j'ai. Ouais.
Ouais, c'est clair. En plus, on peut venir. Je pense que tu viens avec des ambitions pour peut-être voler un petit peu le show, même si c'est dur. Hein, parce qu'encore une fois,
Ouais.
le combat, il y a beaucoup d'engouement, il y a des embrouilles. Il y a Cédric qui fait tout le boulot derrière pour que ça amène encore plus de gens sur cette carte-là. Et puis, en tout cas, ça a fonctionné. Parce que, comme tu l'as dit, tu as un zéro en professionnel. Je ne suis pas quelqu'un qui suit beaucoup le MMA amateur, en tout cas pas à l'époque. Donc, moi, vraiment, c'est là où je découvre. Moi, je me dis, ok, on parle de ce gars-là, j'ai vu les trucs sur Twitter. Bah, je vais pouvoir me faire une idée en fait, parce que moi j'étais dans la salle, je me suis dit, ok, je vais pouvoir voir ce que ça donne.
OK.
Et clairement, je me dis, ok, il y a quelque chose d'intéressant avec ce combattant-là. Je me demande pourquoi le PFL n'en profite pas pour le signer.
OK.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On te propose quelque chose ou c'est plutôt toi
En
qui es
fait, c'est
un.
l'explosion. À ce
Ouais.
moment-là, c'est l'explosion. Faut savoir que ouais, tu te réveilles le lendemain, tu as pris 100 000 abonnés, tout le monde parle de toi, tous les médias parlent de toi, tu es partout médiatiquement, sur TikTok, tu es partout. Pour donner un ordre de chiffre, la photo d'après-combat où je suis avec le chapeau de paille, elle fait 150 000 likes.
C'est incroyable.
C'est énorme. Ça veut dire que moi, mon compte, je passe à du. Je pense qu'il y a 30 millions de personnes qui passent dessus sur le mois. En fait, c'est des chiffres faramineux qui font que, en fait, toi, tu dois prendre du recul. Ok, on a fait le PFL, ok, on a fait le one shot, on a kiffé, ça c'était une dinguerie. Sauf qu'on avait encore un contrat avec l'AEC, qui est devenu l'AEC. qu'on a honoré. Et puis, il y a toutes les organisations qui vont maintenant revenir vers nous, maintenant que je vais être libre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme choix? Et puis là, ça a été vraiment la bagarre entre les organisations pour me signer. Hein. C'était vraiment ça. Il y avait le KSW, il y avait l'Hexagone, il y avait le ARES, il y avait le PFL, il y avait vraiment tout le monde.
Ouais, j'imagine que quand on a un prospect comme ça, européen et mondial même, il y a quand même du monde qui se bouscule pour signer
Ouais, c'est ça,
rapidement.
c'était vraiment la bataille.
Tu
Là,
t'es
à ce
senti
moment-là.
respecté dans cette course à la signature de Patrick Abiroa ou pas?
Franchement, c'était la bataille, sauf qu'il y en a vite qui ont. Parce que voilà, ça a un prix. Ça a un prix de signer, de signer à ce moment-là, parce qu'en fait, c'est l'offre et la demande. S'il lui propose ça, ben, l'autre, il va proposer plus, donc l'autre, il va proposer plus. Donc, il y en a qui ont fait un step back. Et c'est vraiment les gros orgas qui ont pu venir. Et celle à ce moment-là qui est vraiment venue avec la plus grosse offre, c'était le ARES, parce qu'en plus, il y avait eu le rachat avec le groupe le SLAM.
Oui, exact.
Et donc, à ce moment-là, ils sont revenus avec des nouveaux fonds. Et là, ils ont fait une offre qui était, bah, c'était la plus conséquente du ARES à date. Du coup, c'était pas refusable.
Ouais, bah, comme et tu le dis, hein, c'est un prix, c'est le price fighting. Et c'est quelque chose qu'on essaye aussi, nous, RMC Sport, de faire comprendre au public en termes de choix de carrière de certains combattants, parce que ça peut décevoir le public qui a investi beaucoup
Bien sûr.
dans le suivi des combattants, et puis des fois, ils sont déçus par certains choix. Je vais pas, on va pas, comment dirais-je, on va pas cacher les choses. Par exemple, il y a beaucoup de déceptions autour du choix de Saladin Parnasse. Tu vois, pas le fait de rester au KSW, de ne pas avoir été à l'UFC. C'est
Ah, je
quelque chose
pense
que
que.
tu as en tête, toi aussi.
Non, mais je pense que Saladin Parnasse, il doit aller à l'UFC, il ira. Je pense que les gens ont encore une vision de l'UFC, ils ne signent pas des gens en dehors d'organisation, etc. Non. T'es pas obligé de faire les Dana White Contender pour aller à l'UFC. Keita, il est rentré à l'UFC, il lui avait déjà proposé un top 10. Keita, c'est la même chose que Saladin Parnasse, double champion. Si Saladin Parnasse veut aller à l'UFC, il ira à l'UFC.
Je suis plutôt d'accord
Je
sur la
pense
question.
aussi, et je pense qu'il a raison de coffrer un maximum d'argent, parce que ces gens-là ne seront pas là si demain Saladin Parnasse, sa carrière s'arrête.
Ça, je peux pas être plus d'accord que ça sur le
Donc voilà.
principe, c'est normal. Maintenant, c'est vrai que. Et puis, moi, je trouve aussi que ça ouvre d'autres perspectives pour les
Bien
combattants un peu
sûr,
plus
bien
jeunes
sûr.
comme vous.
Il y en a qui font d'autres carrières, il y a des gens qui sont là et qui vont te dire, moi, mon but, c'est pas d'aller à l'UFC. Du coup, très clairement, s'il affiche très clairement des ambitions de je n'ai pas envie d'aller à l'UFC, ben, la personne va là où il va aller. Si son but c'est de faire de l'argent, ça peut devenir un prize fighter. C'est des combattants qui
Exactement.
combattent uniquement pour l'argent. Ça dépend de tes envies, ça dépend de tes ambitions, ça dépend de ce que tu recherches, ça dépend de ce que tu veux et qui tu es. Tu es un combattant qui est imminent, qui est 8, 9, 10, 11, 12, 13, 0, mais tu n'as pas une hype faramineuse, tu n'es pas un nom énorme dans le MMA. Tu n'es pas champion ou double champion d'une organisation, bien sûr que tu devras passer par les Dana White Contender Series. Et tu devras faire 5 plus 5, et puis après 12 plus 12, et puis le contrat de base. Tu es un combattant qui est déjà classé dans le top 40 ou 30 mondial, tu es double champion d'une organisation, tu es un très très gros nom, tu remplis des salles de 10, 15 000 personnes. Ah, ça se négocie un contrat.
Tu avais déjà parlé quand même de tes ambitions et de tes rêves, aller dans la grande organisation mondiale et en
Bien sûr.
récupérer la ceinture. Ce serait ceinture de grande organisation mondiale ou big prize money. S'il y avait un choix entre les deux, legacy ou argent, parce que en vrai c'est le nerf de la guerre aujourd'hui et il y a un choix à faire entre les deux quelque part.
Moi, pour moi, ce choix, il est débile en 2025. Si tu me parles de 2012-13, Georges St-Pierre, il le disait, il a combattu pour la ceinture de l'UFC la première fois pour 12 000 dollars. Là, bien sûr que j'aurais choisi le big prize money. Mais en 2025, si je combats pour la ceinture de l'UFC, j'aurais du big prize money. Du coup, bien sûr que je vais prendre la ceinture de l'UFC 100 000 fois. Jamais j'irai chercher l'argent alors que j'aurai de l'argent si je combats pour. Mais ce qui est dur, c'est d'arriver à cette ceinture. Mais bien sûr que dans un coin de ma tête, si je fais tout ça, c'est pour arriver à la plus grosse organisation mondiale, monter les échelons et arriver à ce Graal. Ce serait vraiment le summum de ma carrière, je pense.
Et c'est important aussi d'être déjà bien entouré très rapidement dans ta carrière. Toi, c'est quelque chose que tu as compris rapidement?
Très
Tu t'es
vite.
entouré dès tes débuts amateurs ou ça a attendu le monde pro?
Franchement, je pense que on peut dire que vers la fin amateur, enfin, on a commencé tôt, mais on va dire que vers la fin amateur, on a réalisé à quel point on avait pris de l'avance sur les gens.
Ok.
Quand j'ai été champion du monde et qu'on est passé dans le monde professionnel, on a réalisé à quel point on avait pris de l'avance parce qu'on était déjà prêt sur certains aspects, là où les gens ne l'étaient pas. Et on se rend compte encore plus maintenant comment on a de l'avance sur les gens. Parce qu'en pro, les steps vont plus vite et sont plus conséquents en fait.
Ouais, bien sûr, tu montes les marches 4 par 4,
Ouais.
il faut être prêt à les monter 4 par 4
Exact,
parce que c'est une
exactement.
chose d'avoir l'opportunité qui se présente, mais est-ce que
Exactement.
tu es capable de faire ce saut justement?
Exactement, ça c'est clair.
C'est pas si simple qu'on le croirait. Toi, tu l'as plutôt bien fait hein, après avoir réussi ta carrière amateur, encore une fois, parce que tu as quand même fait double champion AEC, enfin AEF à l'époque,
Ouais.
qui est devenu AEC derrière. Tu l'as dit tout à l'heure en début de conversation, La France a une part importante dans l'exposition et l'évolution du MMA en Belgique. Toi, tu fais une bonne partie de ta carrière en France, justement. C'est plan de carrière ou c'est opportunité, tout simplement?
Alors, je pense que ça a été un peu des deux. Je pense que l'opportunité de combattre en France, bah, elle m'a été proposée parce qu'il y avait des grosses organisations qu'il n'y avait pas en Belgique. Et le fait que le retour que j'ai eu du public et le retour que j'ai eu des organisations ont fait qu'on a continué à combattre en France. Là maintenant, je suis dans une organisation internationale qui est le PFL, ça veut dire que je peux être amené à combattre dans le monde. Mais je pense que dans leur intérêt, ils veulent me mettre quand ils sont en France parce qu'ils savent que ça remplit une salle.
Ça remplit une grosse salle. Ça remplit une salle à la maison. Ça remplit une salle en Belgique. Patrick, tu as combattu chez toi.
Bien
Moi,
sûr.
j'avais l'impression que j'assistais à un derby d'un match de foot. Devant ma télé, je ne m'attendais pas à ça. Je sais que tu es populaire. Il n'y a pas de problème
Je
là-dessus.
pense que les gens ne se rendaient pas
Les
compte, hein.
réseaux sociaux, compagnie, ok, on comprend bien. Mais quand le combat commence, je me suis refait le combat, tu te doutes bien, puisque je préparais l'interview.
Bien sûr.
Les commentateurs, on les entend jamais,
Ouais, bien sûr.
déjà. On entend des copes, on
Tout le
entend des
combat,
copes en fait de supporters.
ouais.
C'était comment en termes de pression?
Pression, c'est énorme. La pression, elle était énorme. Franchement, honnêtement, c'était. Je pense que c'est le combat avec le plus de pression que j'ai eu dans ma vie. De la peur de décevoir les gens. La peur de décevoir ton équipe. La peur de. En fait, je pense que tu préférais perdre à l'étranger que
Bien
chez toi.
sûr.
Chez toi, t'as pas envie de perdre. Tu te dis, s'il y a un jour où je dois pas perdre, s'il te plaît,
Bien
c'est
sûr.
aujourd'hui. S'il te plaît, fais pas de dinguerie, fais pas d'erreur. Vois le crochet arriver. Tu vois? Mets ta garde, gros, tu vois? Mais c'est clair que ouais, la pression, elle était énorme. La pression, elle était. Quand j'y repense, c'était. T'avais un poids sur les épaules, mais aussi, l'énergie du public te transcende. C'est-à-dire que quand ils ont crié comme ça, c'est comme si ton énergie, à un moment donné, tu te dis, mais en fait, ils sont pas contre moi, ils sont avec moi et ils veulent me voir gagner. Du coup, je vais gagner pour leur faire plaisir. Et donc, tu te motives toi-même à te dire, je vais gagner, et puis tu rentres dans ton combat, et puis après, là, tu es en pilotage automatique. Donc là, c'est encore autre chose.
Ouais, c'est clair, mais t'es quand même un jeune combattant
Oui, bien sûr.
qui arrive à faire en sorte que la deuxième organisation mondiale de MMA, elle vienne organiser un event parce que t'es là en fait, et parce que t'es capable, en tout cas eux pensent, nous on le sait pas encore, il
Non, on le
faut le
savait.
faire, tu vois.
Nous, on
Eux
le
ils
savait.
pensent que t'es capable de remplir la salle, et du haut de tes 23 à 24 ans, de porter un événement sur tes épaules. Parce que c'est là, en fait, qu'on sait si un combattant va être de cette étoffe-là. On peut le calculer en tant qu'organisation, en tant que promoteur. Tu vas dire, moi, je crois. Mais on peut aussi s'écrouler sous la pression et dire, en
Bien
fait, c'est
sûr.
trop difficile. Et c'est déjà quelque chose qui est arrivé. C'était, tu m'as dit que c'était pas spécialement la peur de la défaite, c'est la peur de décevoir.
Ah,
Moi,
bien sûr.
tu choisis bien tes mots, je sais que tu t'exprimes bien, donc c'est pour ça que c'était important. Est-ce que cette peur de décevoir, elle est aussi couplée au fait de se dire. Est-ce qu'en fin de compte, à ce stade de ma carrière, j'ai intérêt à porter un event sur mes épaules comme celui-ci? Ou comme les mecs en anglaise, en fait, je vais mettre un undercard de quelqu'un, et comme je l'ai fait avec Baki Doumbé, enfin en main card, et puis je vais attendre tranquillement de continuer à grandir.
À ce stade, non. Si je dois être honnête, non. Je pense qu'en Belgique, ça peut-être devrait être d'autres gars qui étaient plus expérimentés que moi. Mais il se trouve que c'était moi la personne qui était capable de remplir une salle. Du coup, si c'est toi, des fois on va dire on te donne des choses dont tu n'as pas le choix.
C'est vrai. C'est vrai. Des opportunités où tu t'as pas l'impression que tu as le choix.
C'est le prix à payer de vouloir devenir le roi des pirates. C'est que des fois tu vas devoir porter des choses sur tes épaules que tu seras incompris parce que les autres gens ne le feront pas à ton âge. Ne le feront pas à ton stade de carrière. Je pense, de manière la plus humble possible, ne pas avoir le souvenir d'avoir un combattant qui fait main event et que la salle est remplie du principalement à lui parce que c'est chez lui et qu'il est contre un étranger de mon âge, en MMA francophone qu'il l'ait fait.
Non,
À mon âge, je pense
non,
pas.
non,
Quand je pense à tous les main events que je vois maintenant, c'est des combattants très très confirmés. Et je me dis à chaque fois, bah, ils sont. C'est incroyable.
Ouais, parce que c'est des combattants qui ont pris de l'expérience en France et à l'étranger, qui ont vu ce que
Ça,
c'était un gros show.
c'est ça,
Toi, tu l'avais vu sur Baki Doumbé, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même
c'est
chose quand
ça,
c'est toi
c'est ça.
qui est le
Quand c'est toi
protagoniste.
qui le fais et t'es face à un étranger, donc tout est sur toi. Quand c'est un choc, on va dire francophone, ça se divise en deux. Il y a quand même une partie
Bien
des gens
sûr.
qui sont pour les autres, et puis voilà. Quand c'est vraiment que toi contre un étranger, ça veut dire que les gens sont venus pour toi.
Avec tout le
C'est-à-dire, ils sont
respect dû
pas,
à Danny Roberts, je crois pas.
non, voilà, mais c'est-à-dire, ils sont venus pour toi, donc c'est pour toi. C'est la première fois dans ton pays et tu es le précurseur. Ça aurait pu être un flop monumental et tout le monde aurait dit, bah, Patrick Aburora, c'est en fait de la hype, mais c'est du vent. C'est juste des réseaux sociaux. Mais si ça se tombe, il a même acheté ses abonnés. Si ça se tombe, en fait, il n'est pas si populaire que ça. Et en plus, il a perdu. Donc ça peut très vite aller dans l'autre côté.
Toi, tu savais ou ça te rassure que
De
ce
quoi?
soit rempli et que ça a été un succès?
Alors,
Au-delà de la victoire ou de la défaite, hein.
je savais que j'avais un très gros public. Je savais que moi, l'engouement du public est réel. Je n'ai jamais acheté mes abonnés. Ça, on le fera jamais. Mais je veux dire, je savais que c'était réel. Je le vois, que ce soit dans les commentaires, dans les posts, dans les machins, dans les trucs. On le voit. On sait le quantifier. Mais c'est bien d'avoir un truc réaliste. C'est bien d'avoir un truc en face de toi où tu as une salle full. La salle la plus symbolique de ton pays. Le premier athlète à la remplir, faire venir l'organisation, c'est toi et pas un autre. Et ça, c'est clair que c'est bien de le vivre parce que ça te permet. Moi, peut-être je le sais au fond de moi, peut-être que mon équipe est d'accord avec moi. On est convaincu qu'on peut le faire, mais on le montre à tout le monde.
Ça change tout.
On passe dans une autre dimension.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on passe dans la dimension de un mec qui vient, qui organise et qui remplit chez lui. Ça veut dire que lui, on sait que chez lui, voilà, il est capable de faire ça. Et il n'y en a pas beaucoup des fighters qui, je pense, sont capables de faire ça.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, comme tu l'as dit, en termes d'équipe aussi, ça permet de se dire, ok, là, ce qu'on fait, ça va dans le bon sens, a priori,
Et
on
puis
peut
après, le
continuer.
PFL, ça te permet d'avoir aussi une autre approche avec eux. Parce que là, ils se disent, ah ouais, merde.
Ouais.
Ce qu'ils se disent là, c'est réel. Parce que c'est vrai qu'eux-mêmes ont été choqués. Enfin, je veux dire, il y avait des chapeaux de paille partout. Il y avait des fumigènes. C'est interdit.
Ouais, c'est
Et il y avait des feux dans la salle. Enfin,
comme de
ils
foot.
sont arrivés, ils nous ont dit, mais les gars, c'est quoi ce délire? En fait, eux-mêmes, je pense qu'ils ont été choqués de l'impact que ça a eu. Parce qu'en fait, le public belge, les gens ne le connaissaient pas en MMA. Peut-être qu'au foot, on le connaît. Peut-être que dans d'autres sports, mais dans MMA, personne ne le connaissait. Et sur la vidéo YouTube, ce qui est marrant, c'est que généralement, dans les combats d'MMA, le public crie. Et puis, le moment où le combat commence, il y a un silence dans la
Ouais, c'est
salle.
vrai.
Et moi, du début à la fin, ça gueule depuis.
Ça chante.
Ouais, ça chante, ça gueule. Dès qu'il se passe un truc, il chante pour moi. Dès que je réussis à sortir, bam, ça crie. Et au moment du chaos, c'est le choc. Et moi, je vois même les visages des grands messieurs qui étaient venus à ce gala, qui ont été eux aussi surpris. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui allaient être surpris de l'issue. Je pense qu'Apollux avait dit, Patrick, son précédent combat, j'ai une annulation, donc j'ai dû fighter un 0-2.
Ouais.
Et il me dit, il passe un 0-2 à Danny Roberts. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Tout le monde était curieux, en fait.
Bien
Tout le
sûr,
monde se
moi le
disait,
premier.
est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est réel? Du coup, quand le mec il est éteint comme ça, ben, on va dire que presque tous les analystes qui étaient, c'est un trop gros test, c'est trop dur, c'est trop tôt, on switchait, hein? Au final, c'était trop facile. Et donc, tu es là en mode, ben, du coup, ben, ça veut dire que c'est un bon indicateur parce que si les gens à la base disaient que c'était trop gros, un trop gros test, qu'il y a beaucoup de même d'acteurs du milieu qui pensaient. Moi, je me rappelle à Alain, un ami à moi, Top Boy, qui est convoqué SW, il ne pensait pas que ça allait remplir. Il le dit en interview. Il dit, moi, je ne pensais pas que le PFL avec Patrick allait être rempli. La Belgique, c'est très dur que les gens payent des places. Ça s'est rempli. Il y a d'autres analystes qui disaient que je n'allais pas gagner ce combat, que c'était un trop gros test, que ce n'est pas ma catégorie, et qui, au final, change après l'interview d'après-fight. C'était peut-être trop facile, l'adversaire était sorti de l'UFC mais était inactif, alors qu'avant, ce n'était pas ça.
Il n'y a pas de sous ce
Parce
message-là.
qu'avant ça, il n'y avait pas ce message-là. Donc, c'est ces indicateurs-là qui te permettent de te dire, ben en fait, quand les gens commencent à parler comme ça, ben c'est que tu es vraiment dans la bonne voie. Je donne un exemple qui n'a rien à voir parce que c'est un autre milieu. C'est stratosphérique le niveau où il le fait. Mais je pense que Topuria, des gens, des fois, ils dénigrent ses victoires. Quand ils disaient, par exemple, Charles Oliveira, etc.,
Il a plus de
il a
menton.
battu Charles Oliveira. Il a battu Charles Oliveira. Même si les mecs l'ont remis knockdown, il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont éteint Charles Oliveira comme il l'a éteint. Donc mettez du respect sur son nom. Pour moi, c'est stratosphérique ce qu'il fait ce mec-là. Mais pour moi, c'est ça. En fait, t'as envie de le détester tellement il est fort. Et moi, c'est ça que j'aime bien chez lui. C'est ce truc-là de susciter vraiment le fait qu'en fait, les gens ils se disent, ben non, au final, c'était peut-être trop facile. Là, je pense maintenant à mon prochain combat. Je vois ce qui se dit. On verra.
On verra. On va juste rester un tout petit peu encore sur celui-ci. Tu gagnes donc par KO dans la première reprise sur un high kick. Donc, c'est-à-dire que quand on fait du combat, il n'y a pas tant de ça de manière dont on rêve de gagner, surtout dans un combat à domicile. En
Ouais.
général, on s'imagine tous en train de mettre un coup de pied retourné, un
Ouais, bien
genou
sûr.
sauté, quelque chose comme
Bien
ça.
sûr.
Est-ce que ça pouvait se passer aussi bien? Est-ce que même dans tes rêves,
Ah
tu avais vu quelque chose comme ça? T'es chez toi à la maison, tu gagnes KO premier round sur un high kick.
on va dire que moi, je fonctionne par pattern. C'est-à-dire que je prends un adversaire, il a certaines patterns. J'analyse ses patterns. Je les mets en face des miennes. Et je vois les ouvertures. Je savais qu'il y avait une ouverture circulaire du côté droit. Par contre, j'aurais jamais imaginé un high kick. Un high kick, ça, vraiment, même dans mes rêves, même en drill, même à la salle, je ne mettais pas d'high kick. Je ne mettais pas de kick. Il n'y avait pas cette, en fait, il n'y avait pas cette option-là dans dans mon cerveau. Je pensais vraiment à une grosse droite, un overhand, flashball. Ouais, propre.
Comme tu sais faire.
Voilà. Mais le moment où c'est parti avec une telle force que moi-même, j'ai été choqué. Bah! Je vois le mec, il est par terre. Je me dis là, c'est maintenant. En fait, dans ta vie, il y a des moments, faut les saisir.
Ouais.
Tu vois là,
Ah, t'as été vite,
faut pas qu'il se relève. Tu vois, parce que je me suis dit, t'sais, tellement t'y crois pas, tu dis que c'est un coup de chance.
hein.
Tu dis, vas-y, c'est passé, mais il va se relever. Ah, c'est maintenant qu'il faut terminer le combat, maintenant. Il faut que l'arbitre il sépare, en fait. Donc j'ai été tellement agressif pour que l'arbitre il dise, ouais, il va le tuer, c'est mort. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, faut pas qu'il se relève là. Il faut pas qu'il se relève. Je me suis dit, mais c'est mort. Si je termine comme ça, mais c'est une dinguerie. Les gens, ils vont dire quoi? Un high kick. Même moi, j'étais choqué de moi-même. Il m'a fallu du temps pour processer ce qui s'est passé dans mon cerveau. Mais j'ai compris qu'en fait, je fonctionnais vraiment très bien à l'instinct et la capacité d'analyse de l'adversaire dans le combat.
Ouais, l'ouverture, elle est repérée. Et je dis souvent à mes élèves, le plus difficile, c'est d'envoyer l'information
C'est
rapidement.
ça. Et de prendre la décision rapidement
Exactement.
d'agir parce que le mec va, s'il est bon aussi, se rendre compte de son erreur. Il va se rendre compte que sa main était peut-être basse et boum, il va la remonter. Du coup, il faut analyser, exécuter avant même qu'il se rende compte de ce qu'il a fait comme erreur.
Ouais, le high kick part dans le timing parfait. Donc, et puis derrière, on l'a dit, on l'a redit, ça célèbre, ça fait une victoire. Parfaite, et ça te permet derrière de sécuriser un gros combat. On y revient juste après. Moi, je voudrais d'abord qu'on reste un petit peu plus sur ton mindset, parce que c'est quelque chose, je sais, qui est très important pour toi, et c'est quelque chose qui flotte beaucoup autour de toi. À chaque fois que tu as l'occasion de t'exprimer, ça va beaucoup sur ce sujet-là, et je pense que c'est important. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu mets en place en termes en termes de, tu sais, de cultivation de ce mindset, des routines particulières, quelque chose qui serait même transmissible peut-être.
Dans la vie de tous les jours.
Ouais.
On va dire, j'ai pas nécessairement beaucoup de choses à part penser au combat 24 heures sur 24, les gars. Moi, je suis un très gros stressé. Du coup, je pense au combat, je dors au combat, je réfléchis au combat, je pense à mon adversaire, je pense qu'à lui. Jusqu'à ce que le combat il est fini, je pense qu'à lui, j'ai l'impression d'être dans sa vie en fait. J'ai l'impression qu'on est en couple. Donc, du coup, c'est très compliqué à expliquer ça. Mais ouais, c'est cette peur psychotique de la défaite qui fait que tu as tellement peur de perdre que tu es prêt à tout faire pour gagner. Et ce qui fait que tu es prêt à tout faire pour gagner, tu repousses tes limites constamment dans l'espoir de ne jamais perdre, de jamais ressentir cette douleur encore de la défaite. Du coup, tu es psychotique.
Et du coup, bah en fait, c'est quelque chose qui va confiner à la psychose et qui va te faire flirter avec la ligne du stress.
Voilà.
Mais c'est du stress. Comment tu arrives à garder le stress à un niveau positif
Je le garde pas
plutôt?
positif. Je le
C'est la peur.
garde. C'est négatif, t'arrives pas à manger, c'est la boule au ventre, c'est envie de vomir. Mais à un moment donné, toute cette boule, elle se transforme en toute une rage. Parce que tu te dis, mais en fait, je ressens tout ça à cause de lui. Et ça arrive généralement au moment de l'échauffement avant le combat. Ça commence à se transformer. Et puis après, tu te dis, mais en fait, toi, je vais te défoncer. Tu dis, en fait, toi, tu m'as fait vivre un enfer pendant 2, 3 mois à pas dormir. Donc là, faut que tu payes.
Ouais, bah, je comprends parce que le public qui regarde le MMA, surtout que c'est un sport nouveau pour beaucoup de gens, cette notion de peur, associée au stress, hein, comme tu veux, c'est quelque chose qui est très mal perçu encore, mal comprise en tout
Parce qu'il y en a beaucoup qui mentent. Je
cas.
pense qu'il y en a beaucoup qui mentent. À mon avis, je pense qu'il y en a beaucoup qui mentent. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils n'ont pas peur ou dire qu'ils ne ressentent rien. Je pense pas que tu ressens rien quand tu montes dans la cage ou dans le ring. Je pense que tu ressens beaucoup de choses. Tu te forces à les contrôler, mais tu ne ressens pas rien. Et je pense que essayer de esquiver tes peurs ou essayer de faire semblant qu'elles n'existent pas, c'est le meilleur moyen d'être inconscient dans un combat. Et de ne pas avoir conscience du danger. Si maintenant, demain, un adversaire me sous-estime, c'est le plus beau cadeau qu'il me fait. Parce qu'il n'a pas conscience du danger que je suis. Et moi, justement, je surestime mes adversaires. Donc, je me fais un très beau cadeau. Parce que je m'entraîne très, très dur, justement, pour pouvoir battre, peut-être des fois, deux versions meilleures qu'eux. Parce que dans mes rêves, ils sont en train de me mettre KO tous les soirs.
Ouais, forcément, ça garde éveillé. Des fois, c'est peut-être pas une bonne chose, hein, parce que ça va t'empêcher de dormir pendant ta prépa.
Ça
Mais en
m'empêche.
fin de compte, c'est mieux d'être comme ça que de tomber dans une certaine forme de
C'est
complaisance.
impossible. C'est impossible. Je pense qu'il y a trop d'exemples dans les mains pour comprendre que tu peux pas être à l'aise.
Moi, je suis d'accord
On
avec toi.
a Kamaru Usman qui gagne 24 minutes, qui prend un high kick.
Ouais.
On a hier Rodriguez à la dernière seconde qui met un coude. C'est un sport de fou, malade. Tu peux pas être à l'aise dans ce sport en sachant que tout peut basculer comme ça.
Et puis, dans un combat, comme tu le dis, ou même d'un combat à l'autre. C'est des exemples qu'on peut voir aussi de quelqu'un, tu le vois sur un combat, il est pound for pound, il est trop fort, world beater, comme on dit, bah, tout le monde, le combat d'après, c'est tombé. Je peux penser à l'exemple de Léon Edwards qui a été champion
Ah,
et
bien sûr.
qui a chuté assez vertigineusement quand
Je
même.
pense que les gens ne doivent pas. Il faudrait pas sous-estimer, mais c'est bien qu'il y en a qui continuent parce que ça nous permet de les battre.
Ouais, c'est clair. Patrick, du coup, cette forme de complaisance qu'on pourrait avoir quand on commence à avancer dans sa carrière professionnelle, je crois moi que je la vois arriver des fois avec la surmédiatisation. Tu te considères comme un athlète surmédiatisé aujourd'hui? Médiatisé à ta juste valeur, entre guillemets.
Je pense que je suis médiatisé actuellement à ma juste valeur parce que je fais le choix de ne pas être médiatique lorsque j'ai pas de combat.
C'est vrai qu'on trouve rien quand tu combats
Quand je combats pas, je fais le choix d'être en dehors des médias et je vis très bien ma vie comme ça.
pas. Ouais.
Parce que je pense que les médias servent à promouvoir mes combats, à promouvoir l'athlète que je suis et la personnalité publique qui est Patrick Aburoa. Le reste, je suis très bien sans.
Comment on vit en étant une personnalité publique dans son coin de Belgique?
On va dire que ta vie elle a changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu fais pas tout librement comme tu le faisais avant et tu prévois un peu plus. C'est-à-dire que tu dois prévoir les choses où tu vas, ce qui se passe et puis après avoir être à l'aise avec le fait que les gens puissent te demander des photos à des moments totalement inopportuns. Mais ça fait partie du métier. On va dire que c'est quelque chose que tu dois te dire si tu visualises être haut dans un sport qui est médiatique. Si par exemple demain tu fais, je sais pas moi, un sport beaucoup moins médiatique, plus niché, l'arc à flèche, c'est très niche. Bah, du tir à l'arc, c'est niche. Du coup, ce sera pas le même impact que demain t'es joueur pro de football.
Ouais, c'est clair.
Tu fais du foot, ben bah, voilà, tu seras beaucoup plus mainstream. Et donc voilà. Le
Ça va
MMA
avec.
maintenant est devenu mainstream. Du coup, on est devenu des personnalités publiques mainstream. Du coup, on a les aléas de la vie d'une personnalité publique mainstream.
Ouais, ça va avec, forcément. Mais du coup, il faut aussi. C'est peut-être là aussi que tu continues d'apprendre en tant que personne, parce que, encore une fois, tu as 24 ans. Donc, en même temps, tu es aussi en train de construire
Ah, bien sûr.
l'homme que tu es et que tu vas continuer d'être. Et je crois qu'avec la médiatisation, il y a un challenge qui est important, c'est l'équilibre entre, tu sais, savoir pouvoir garder ses ambitions vivantes et les afficher au bon moment, et aussi garder une certaine forme d'humilité.
Je pense que la ligne avec l'humilité, je pense que l'humilité, c'est très subtil en fonction de chacun, comment il le perçoit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te diront qu'ils ont juste confiance en eux, alors qu'ils sont peut-être arrogants, d'autres qui ne sont pas arrogants et qui ont juste confiance en eux, d'autres qui sont trop humbles, d'autres qui sont humbles, d'autres qui sont timides.
Moi, j'aime pas les trop humbles.
Chacun, en fait, c'est parce que c'est la perception des gens. Ah, t'es trop humble, ah, tu devrais plus parler, ah, tu devrais moins parler, ah, ah, lui, il parle trop. Au final, il faut savoir un truc. Dans le MMA, si personne ne parle, vous n'allez pas regarder les combats. Vous aimez quand il y a des divertissements, mais vous n'aimez pas le mec qui vous a diverti et qui perd parce qu'il a parlé. Du coup, au final, moi, je suis plutôt de cet adage du fait que quoi que tu fasses, ils auront quelque chose à dire. Donc, sois toi-même. Ne te donne pas un rôle, ne te donne pas un genre, mais pour ma perception du sport, je pense qu'il y a quand même un être au-dessus de nous qui décide. Et lorsque tu fais preuve d'arrogance, il te remettra les pieds sur terre. C'est pourquoi, personnellement, je ne peux être arrogant. Et si un jour je dis, je pense que je deviendrai champion du monde, c'est que je le pense. Si demain je dis, je pense que je vais le battre, c'est que je le pense. Parce que si je ne pensais pas que je te battrais, je n'irais pas dans la cage. Mais je ne dirais jamais, lui, c'est trop facile, ça n'existe pas. Parce que le MMA, tu peux prendre un mauvais coup à tout moment.
Ouais, je comprends parfaitement ce que tu nous expliques et la ligne entre les deux et la perception, surtout de cette ligne par rapport au public. Il y a un exemple récent qui, je crois, est parfait, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est ce qui s'est passé dans le combat entre Baki et Zebo, où Jordan Zebo a mis KO Baki. Et puis derrière, beaucoup de gens sont revenus sur les propos de Baki avant le combat. Qu'est-ce que t'en fais de tout ça par rapport à cette ligne justement? Toi, c'est quelque chose qui te dit, bah, en fait, il a parlé parce que lui, il pensait qu'il allait pouvoir le faire, ça s'est pas passé, on passe à autre chose, ou c'est, il a peut-être un peu trop parlé, et du coup, faudra faire différemment.
Tout d'abord, je pense, je préfère mettre les choses au clair, Baki est un ami. Mais je pense que dans ce combat-là, il a dit ce qu'il pense, comme lorsque tu es dans une discussion avec des amis. Sauf qu'il y a une différence entre ce que tu dis aux caméras et ce que tu dis à des amis. Parce que comment tes amis vont le prendre, ils te connaissent personnellement. Peut-être qu'ils savent que tu es quelqu'un de humble dans la vie de tous les jours. Alors que quelqu'un derrière sa télé, il ne te connaît pas. Il ne t'a jamais vu. Donc peut-être qu'il le prend d'une autre manière. Et ça peut paraître arrogant. Donc je pense que dans la perception des gens du public, il y a certaines phrases que Baki a dit qui ont paru et qui ont pu être prises comme arrogantes. Et après, il y a le fait de combat qu'il ait perdu le combat. Donc du coup, tout le monde est revenu avec oui, ce que tu disais. Ben regarde, t'as perdu. Je pense que le premier pénalisé est Baki.
Bien sûr.
Il a perdu son combat. Du coup, je pense que si quelqu'un a pris des leçons de ce combat, c'est lui. Mais je ne pense pas que dire que tu es plus fort que quelqu'un est arrogant. Par contre, la manière dont tu le dis, c'est là où il y a peut-être des choses où il les a dit de manière plus à l'aise et qu'il n'aurait peut-être pas dû. Ça, c'est à lui de le savoir. Je pense qu'au fond de lui, il sait lui-même le message qu'il a voulu faire passer et il sait lui-même les erreurs peut-être qu'il a fait dans ce message. Et que s'il y a des erreurs qu'il a fait et que la perception a mené à ça, bah, c'était pas bon. Mais ce que je suis content, c'est que quoi que le message qu'il ait voulu faire passer, quoi qu'il a fait comme erreur, il a assumé sa défaite. Quand il a pris le micro d'après combat, et ça c'est le mieux. Les faits de combat sont les faits de combat. Lui-même le dit, être blessé n'est pas une excuse. Parler avant le combat n'est pas une excuse non plus. Tu gagnes ou tu perds. Tu vends ton combat ou tu décides de ne pas le vendre, mais tu agis avec les règles du MMA. Si tu vends ton combat, tu sais ce qu'il y aura si tu perds après. C'est tout. Et je pense que voilà, le combat nous a montré en fait tout ce qui est l'art du MMA. Vendre un combat, susciter de l'intérêt, peut-être parfois être pris dans la vague. C'est comme Conor. À un moment donné, je pense qu'il a été pris dans la vague quand il était avec Khabib. Je pense que dans sa tête, il faisait le même trash talk qu'il faisait avec les autres, sauf que là, il avait
Il n'a pas
dépassé les
compris, ouais.
limites.
Il n'a pas compris
Je
qu'il allait plus
pense
loin.
que là, Baki peut-être ne s'est pas rendu compte de ce qu'il disait, l'impact que ça avait chez les gens. Honnêtement, pour le connaître personnellement, je pense qu'il ne s'est pas rendu compte. Mais à la perception du public, je peux comprendre que les gens ont dit, ouais, mais ça, c'est arrogant quand tu dis ça de quelqu'un. Du coup, il s'est passé ça, puis il y a un fait de combat. Tu domines, momentum de Jordan, il gagne. Pourtant, tu dominais 3 rounds avant. Mais c'est un momentum, c'est du MMA. Du coup, Jordan a gagné. Il est très méritant. Grosse félicitation à lui, parce que ça a l'air d'être un bon gars. Bah, qui a appris sa leçon, durement, mais il a appris de la meilleure des manières. C'est à la dure. C'est ça le MMA.
Ouais, exactement. Puis derrière, les réseaux sociaux qui jouent évidemment à plein
Ça,
régime.
c'est pas le plus important.
C'est
En
clair.
vérité, si tu prêtes de l'attention à vraiment ce qui se dit. Allez, on va prendre le pire réseau social, Twitter. Si tu prêtes de l'attention à ce qui se dit sur toi sur Twitter. Tu pourras lire des atrocités, tu pourras lire des trucs de fou, mais à un moment donné, la vérité sur Twitter, ce qui se passe, c'est que sur Twitter, ça dure une semaine. La semaine prochaine, tout le monde fait sa vie, ils vont au bureau, ils vont à l'usine, ils vont au travail, l'autre, ils vont à la boxe, tout le monde fait sa vie. Et les gens vont oublier. Georges Saint-Pierre, il m'expliquait cette anecdote où il pensait que quand il avait perdu la première fois, il pensait que dans la rue, les gens allaient le voir, savoir qu'il avait perdu. Les gens n'avaient rien à foutre. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. On n'est pas non plus. On est des personnalités publiques, mais tout le monde entier ne regarde pas le MMA. Ça veut dire que tu as une bonne partie de la population qui fait sa vie dehors. Tu as pris un KO hier, tu vas chez le boulanger, il n'en a rien à faire. Il te demande, tu veux une baguette ou un croissant? Donc c'est ça qu'il faut se dire dans sa tête, hein, qu'à un moment donné, oui, parce que toi, tes réseaux sociaux sont dirigés par rapport à toi. Donc tu as l'impression que tout le monde parle de toi. Mais tu retires la sphère MMA, qui est très minime, qui sont des anonymes sur les réseaux sociaux, tu verras qu'en fait, il y a une bonne partie du monde qui, voilà.
C'est vrai.
Vis sa vie.
C'est vrai, ça reste un sport qui est très suivi, mais qui reste encore relativement bas par rapport à d'autres faits de société, ou d'autres sports en tout
Je
cas.
pense que même tous les sports, même le foot, tu perds à la Coupe du Monde, oui, tout le monde va parler de toi pendant une semaine. La semaine prochaine, ce sera fini. Parce qu'il y aura d'autres faits d'actualité.
Toi, tu es très conscient du côté éphémère, donc ça te fait pas peur si jamais il y a quelque chose qui
J'en ai
devait
rien à
mal se
faire.
passer dans ta carrière derrière.
J'en ai strictement rien à faire. Honnêtement, la seule chose qui va me blesser, c'est moi, la défaite. C'est pas ce que les gens vont dire. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que le compte XYDW a dit? Ouais, Patrick, c'est une fraude. Ok, je suis une fraude. De un, il a peut-être raison. De deux, il me le dira pas en face. Et de 3, j'éteins mon téléphone et puis il n'y a plus de fraude.
Il n'y a plus de bruit.
C'est ça la vérité. Si je veux même maintenant, je coupe Twitter et je vois plus ce qu'ils se disent. Donc en fait, c'est ça. Mais par contre, la défaite me fera mal. Ça, oui. Ça fait mal au combattant, à celui qui veut être compétiteur, à celui qui veut atteindre vraiment le Graal. C'est pour ça que je dis que la seule leçon qu'il a tirée de ce combat, c'est sa défaite, Baki. C'est le seul. Le reste, il se glisse sur Twitter, il n'a pas besoin. Si maintenant il y a un message qui est important, si maintenant il y a quelque chose à revoir, c'est ton coach qui va venir te dire, hey, écoute, là, t'aurais pas dû faire ça. Là, t'aurais pas dû dire ça. Là, t'aurais pas dû aller dans ce combat comme ça. Français.
Je termine avec 5 questions, mais il faut que tu
Ok.
répondes rapide.
Rapide.
Rapide, ok? Si tu n'avais pas été combattant pro, quelle carrière tu aurais envisagé?
Footballeur.
Footballeur professionnel, très bien. Le combat que tu pourrais revoir toute ta vie sans te lasser.
Ouf. Conor McGregor, José Aldo.
Très bien. C'est quoi ton film de bagarre préféré? Bagarre, hein, ça peut être Ip Man et tout.
Ah ouais, bagarre. En vrai, Karate Kid, hein, avec le
Ah.
fils de Will Smith. La
Ok,
vérité.
la nouvelle version.
La vérité, la nouvelle version. C'est vrai que Karate Kid, l'ancienne version, elle est bien avec l'autre là, mais non. Le fils de Will Smith, c'était stylé.
D'accord. Ton plat rêvé après un gros cutting.
Plat rêvé? Franchement, riz, frites, poulet. Comme ça, un mélange bien gras.
Ok, et la dernière, c'est qui le goat du MMA pour toi?
Ouh! Ça restera John Jones pour l'instant, mais je pense qu'actuellement, il y a Islam qui est très très fort, mais celui qui me choque vraiment personnellement, que ses performances me touchent plus, c'est Ilia Topuria. C'est vraiment très fort. S'il ne perd jamais et qu'il bat Islam et que voilà, tout ce qu'on dit du bien de lui, je pense qu'il peut avoir ce statut-là. Bien sûr qu'il y a d'autres combats de champions qui sont excellents, Merab, etc., mais je suis moins attiré par ce style-là. Topuria, c'est vraiment très fort. Très très fort.
Patrick Abiroa, futur goat.
Ah, ça on verra, c'est pas à moi de le dire. Ça, c'est le public qui doit le dire. Ce serait gênant que le propre combattant dise qu'il est le GOAT lui-même. Je verrais ça. Ce serait bizarre. Si tu dois le dire toi-même, c'est que le public ne le pense pas, je pense.
Patrick Abiroa, merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur d'être avec moi.
Avec
Et puis
plaisir,
écoute,
Baba.
j'espère qu'on se reverra et que
Ouais.
tu auras une grosse ceinture autour de l'épaule pour faire un deuxième épisode de Baba
Ouais, bien sûr. Si on peut faire ça avec une ceinture ou avec deux ceintures.
Versus.
Non, ce serait stylé. Merci beaucoup pour
Merci
l'invitation.
à toi, à bientôt.
Merci.
Ciao.